Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Et je vous retrouve dans un instant avec de la joie, de la bonne humeur dans le studio avec Christophe Beaugrand pour parler de ses nombreuses activités télévisuelles, du loto, en passant par LCI, Ninja Warrior, il y en a tellement. Enfin, on va parler de tout ça avec lui. Et puis à 10h30, les dernières infos du PAF avec Rémi Pernelet et Gilles Ganzman. Et puis comme tous les vendredis, les livres qu'il faut lire avec Gérard Collard. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 octobre, on est ensemble pendant 2 heures aujourd'hui et nous recevons avec Gilles Ganzman, bonjour Gilles.
Bonjour Valérie.
Christophe Beaugrand, bonjour Christophe.
Bonjour Valérie,
merci
bonjour
d'être
Gilles.
Avec nous. Bon, vous ne serez pas là pendant 2 heures, mais déjà on est content de vous avoir.
Je reste autant que vous voulez.
C'est gentil. Je me demandais si vous n'étiez pas le recordman de nos invités, vous êtes venu déjà plusieurs fois, on est ravis de vous recevoir.
Vous comptez, c'est pénible, c'est ça ?
Non, on est ravis, au contraire, de vous avoir. Donc, on va parler avec vous de la bataille des couples sur TFX qui redémarre sur les chapeaux de roue, 18h25. On va en reparler avec vous. Vous êtes un
18h50,
peu...
je crois. 50.
Ah, c'est moi, alors.
C'est une erreur de Gilles Ganzman.
Non, c'est dans le dossier de presse,
c'est dans
madame.
Le dossier de presse s'est trompé.
Ah,
voilà.
Ah, c'est possible, ça peut arriver. Mais bon, c'est vrai, si vous arrivez sur 18h25, vous avez l'épisode de la veille en rediff. Donc, c'est pas grave.
C'est
vous tombez
ça.
Quand même sur la bataille des couples. Tout va
tous
bien.
Les matins, l'humeur de Beaugrand sur LCI chez Pascal de la Tour du Pin, tous les samedis 50 minutes inside, Ninja Warrior évidemment,
l'été oui.
L'été et puis le loto encore.
Et le loto et puis sur une radio concurrente et néanmoins amie, les grosses têtes, donc okay. Oui, non, je ne m'ennuie
qu'est-ce
pas.
Qu'est-ce qui paye le plus?
c'est l'amour.
C'est
ouais, l'amour.
Bien sûr.
Ça c'est le la loto, passion. Non pour ouais. Le temps.
Ça dépend des émissions,
vous
ça dépend
quoi,
des
ça
programmes.
Ça doit être le loto.
Non, le loto.
En rapport en minute prix.
Ah oui, à la minute, oui, je vous confirme. C'est un programme qui fait 1 minute 20, donc oui, effectivement, je vous confirme. Oui.
Allez, on va parler de toutes vos activités dans un instant. On va commencer par les audiences d'hier soir. Vous avez regardé la télé hier?
Hier soir, oui, j'ai regardé la série d'Arte que j'ai trouvé formidable, qui s'appelle Mytho.
Ouais,
c'était
Mytho,
vachement bien.
Oui, avec,
et je crois que ça
Marina,
a bien marché.
Marina Hans,
avec Marina Hans et Mathieu Demi. C'est très réussi.
Absolument, oui. Moi, j'ai regardé 2 premiers épisodes, mais je trouvais ça plutôt pas mal. Très décalé. Et
oui,
marrant.
Très décalé.
On demandera à Rémi Pernelet de nous dire, parce que Rémi n'est pas là, il est là à 9h20 dans la matinale de Patrick Roger.
Alors, mais j'ai regardé, ça a fait presque 1 million.
Vous
avez Arte, là, c'était un gros carton.
Vous regardez les chiffres tous les matins?
Je regarde, oui, je suis accro aux audiences. J'ai longtemps été journaliste média sur LCI, et c'est vrai que ça fait partie peut-être de la déformation professionnelle. Je regarde d'abord mes chiffres, ce qui concerne la matinale d'LCI et la bataille des couples, et puis je regarde les chiffres des autres aussi, parce que ça m'intéresse et que c'est intéressant de savoir ce que le public
alors, qui est arrivé en tête hier? Quiz.
Alors, qui est arrivé en tête, a priori, hier soir, c'était... alors, attendons, j'ai pas tout
c'était
vu.
Hein. TF1, ah,
c'était TF1, mais je sais plus ce que c'est, jeudi.
C'était pour Sarah.
Ah, mais oui, c'était le final de Pour Sarah,
voilà, 4 095 000 téléspectateurs, 24,3% de part de marché pour le dernier épisode, après 22 heures, et donc c'est 20% de part de marché, c'est un très bon score pour TF1. Deuxième position, un village presque parfait avec Didier Bourdon et Laurent Deutsch pour France 3, donc 2 372 000 téléspectateurs, 11,3% de part de marché. M6, troisième position, recherche appartement ou maison, 2 065 000 téléspectateurs. C'est le score, c'est les téléspectateurs habituels. Et en quatrième position, France 2, avec seulement 1 877 000 téléspectateurs. 200 000 de moins que le dernier envoyé spécial il y a 2 semaines. C'est dommage parce que c'était un très bon numéro. Donc regardez-le.
Ouais, c'était sur Rouen, ils avaient bougé leur programmation.
En replay, c'était plutôt pas mal. Vous regardez quoi à la télé?
Moi, je regarde tout à la télévision. Je regarde beaucoup de séries, beaucoup de fictions. Je suis assez accro. Ce que j'attends avec impatience, c'est le Bazar de la Charité, la grande série événement de TF1. J'ai eu la chance d'assister aux 2 premiers épisodes. Il y a eu une grosse avant-première au Grand Rex. C'est une fiction extraordinaire. Ouais. Je pense qu'on fait aujourd'hui en fiction, que ce soit sur TF1 ou sur les autres chaînes, on propose des choses vraiment d'une modernité, d'une qualité. Ça n'a rien à envier au cinéma, ouais. Vraiment.
Enfin, c'est un accord entre TF1 et Netflix.
Exactement.
Il y a de l'argent de Netflix.
C'est grâce à cette copro entre Netflix et TF1 qu'on peut avoir des budgets aussi colossaux. Exactement. Parce que là, on a une qualité cinéma sur ce programme qu'on va voir bientôt. Ouais. J'ai pas les dates, mais ça va arriver avant la fin de l'année.
Dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'il y a une émission, vous présentez de la télé-réalité, donc les gens en général, quand on leur dit qu'est-ce parce que vous n'aimez pas la télé, répondre à la télé-réalité.
Et non, moi, non, j'aime bien.
Oui, vous aimez bien. Vous regardez,
Oui, j'en regarde de temps en temps, oui, bien sûr. Moi, j'étais fan de. C'est vrai que j'ai eu la chance de. Je dis chance parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir de présenter Secret Story, qui est une émission que j'ai regardée pendant des années. Je regarde Koh-Lanta très souvent. Je regarde de temps en temps, je regardais La Villa, qui est l'émission dont la bataille des couples est le spin-off, comme on dit. Non, oui, parce que ça m'intéresse. Moi, j'aime l'écriture télévisuelle. Et je pense que sur l'écriture télé-réalité, on peut faire du très bien comme du moins bien. C'est un peu dommage de dire de ne pas aimer d'emblée la télé-réalité. En télé-réalité, il y a des choses de très bonne qualité, des choses qui le sont moins. C'est comme si on disait j'aime pas les séries. Il y a des séries excellentes, il y a des séries très mauvaises.
Enfin, il y a un principe de la télé-réalité quand même. Il y a une patte.
Mais la télé-réalité a infusé partout. Aujourd'hui, les reportages qu'on voit en télévision sont très différents car empreintes d'écriture télé-réalité. Ça a vraiment beaucoup fait évoluer. Il y a des docu-réalités maintenant qui sont des formes de reportages inspirées de l'écriture télé-réalité. Donc je pense que la télé-réalité a malgré tout dans l'écriture, dans la modernité de montage et de fabrication, apporté beaucoup de choses à la télévision française. Après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer effectivement ce type de matière et de divertissement qui vise essentiellement quand même un public jeune.
Plus jeune. Votre première apparition à la télé, c'était quand ?
J'avais, je devais avoir 5 ans dans une chaîne locale sur FR3 Lorraine Champagne-Ardenne.
Et pourquoi donc ?
J'habitais 2 ans à Nancy quand j'étais petit. C'est une émission qui invitait des classes et du coup, j'avais été invité. Je me rappelle encore avoir traversé la station locale de FR3 en voyant la carte, vous savez, avec les soleils qu'on collait à l'époque. Il n'y avait pas avec des aimants et tout ça. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Les caméras qui étaient énormes à l'époque. Puis j'étais tout petit et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire.
C'est vrai, c'est là que ça a été le déclic. Et après, quand vous êtes devenu un grand garçon, c'était quand ?
Un grand garçon, mais il y a eu plein de trucs, hein, parce que j'ai participé à des émissions à Tous à la Une. J'ai été mis à la Une par Patrick Sabatier à l'époque, parce que je travaillais dans un journal fait par des enfants. J'ai participé à pas mal d'émissions. Après, mon vrai premier passage télé, c'était le JT de LCI, l'été 2000.
Comment vous y êtes arrivé ? Vous avez fait un casting ? Comment on devient présentateur de JT ?
Alors, j'ai fait le siège du bureau du patron de l'époque, qui était Jean-Claude Dacier. Ouais. J'avais 23 ans, enfin j'avais 22 ans quand je suis arrivé en stage, j'avais 23 ans quand j'ai fait mon premier JT, j'en faisais 14. et j'ai saoulé ce pauvre Dacier qui a fini par dire « Oh, bon, lui, il me fait chier, on va lui faire les JT ». Alors, je l'ai fait le 14 juillet, entre 1h et 6h du matin, parce qu'à l'époque, il y avait les JT la nuit, donc j'étais regardé par 3 personnes, dont ma grand-mère. Mais c'était un bon début pour apprendre. On s'était croisés à l'époque.
Ouais, absolument,
et vous m'aviez donné
absolument.
Des conseils, je me souviens.
Ah, bon, c'est je me souviens pas. Non,
elle m'avait pas donné de conseils. Elle m'avait dit que j'avais du potentiel. Et elle m'avait dit, on sent.
Je me souviens pas. J'étais visionnaire.
Elle ne l'assume pas, peut-être, maintenant.
Si, si.
Bon, peut-être que c'était juste pour être poli. Hein.
Voilà. Pour être gentil, voilà. Un moment de gêne. Voilà. Oui. Vous la regardez où, la télé, chez vous ? Partout ?
Je la regarde dans mon salon, je la regarde sur mon téléphone parfois.
Dans la chambre ?
Vous êtes
pour ou contre la télé dans la chambre ?
J'ai une télé dans la chambre, donc je vais dire que je suis pour.
Ouais. Et qui tient la télécommande ? Votre mari ou vous ?
Parfois, c'est le chien. C'est ça qui est dangereux, parce qu'elle a essayé de la bouffer la semaine dernière. On est assez d'accord, on est assez raccord sur les programmes
dans la famille. Vous êtes un jeune couple, jeune marié, donc vieux couple, ça fait
8 ans quand même déjà, mais un an de mariage.
L'émission que vous aimeriez voir revenir à la télé ?
La Star Academy, et j'adorerais la présenter surtout.
J'étais fan de cette émission,
mais elle ne reviendra jamais, je pense, parce que c'était un autre temps, mais j'étais fasciné par cette émission. J'étais même abonné à la chaîne 24 sur 24, et je suivais les cours chez moi, les cours d'Armand Altaï et les cours de danse de Kamel Wally.
Et ça donnait quoi ?
C'était une catastrophe, mais j'ai trouvé que ce programme, je trouvais c'était formidable.
Il y a une émission à laquelle vous aimeriez participer, genre Danse avec les stars ou
Je pense que la danse ne mérite pas cela, vraiment.
Bon.
La danse mérite mieux. Non, mais par exemple, je trouve le concept de Mask Singer excellent.
Ce qui va arriver sur TF1, c'est cette émission avec des personnalités totalement déguisé, transformé.
Planqué dans des costumes et on ne sait pas qui se cache derrière. Il y a une enquête, etc. Ils sont censés chanter, mais ça n'est pas leur métier. Ça n'est pas forcément leur métier. Il y a des chanteurs, mais il y a aussi des acteurs, des personnalités. Oui, moi, ça me ferait marrer de faire ça, d'être planqué dans une petite bestiole.
Peut-être vous l'êtes.
Peut-être l'êtes-vous.
Je vais gâcher le casting. Je n'y suis pas. Voilà.
Alors, Sandra nous dit, Christophe est-il vraiment maladroit ou alors est-ce qu'il fait exprès pour faire rire les gens ?
Non,
vous êtes maladroit ?
Bah, pour quiconque me connaît un minimum sait à quel point je suis maladroit. Oui, je suis vraiment maladroit. Il peut y avoir des témoignages chez moi.
Sur une émission qu'on a faite ensemble,
oh, oui, c'est vrai.
Vous êtes tombé du plateau, on a eu très très peur.
Allez,
c'était une scène à élever.
J'avais pas compris, il y a Arnaud qui dit bonjour à Moche Petit, j'avais pas compris.
Ah, Moche Petit, beau grand,
oui.
Beau
grand, voilà.
Bonjour Arnaud.
Voilà.
Vous
voilà.
L'avez pas fait depuis la maternelle, celle-là c'est bien.
Vous avez compris tout de suite, moi j'ai fait un moment de recherche. Gilles, le zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie Christophe, voilà le zapping du jour et c'est la grosse info du jour. C'était hier sur C8, le comédien Thierry Samitier qui est accusé d'agression sexuelle sur deux de ses partenaires de théâtre dans une pièce qu'il joue avec Franck Leboeuf, une défense sur TPMP qui a fait du bruit.
Ma compagne m'a dit, tu sais, il y a un point commun entre Franck Leboeuf et Hitler, c'est gros, hein. C'est que ce sont deux artistes ratés. C'est-à-dire que Franck Leboeuf, c'est très bon. Franck Leboeuf, laisse-moi finir. Franck Leboeuf était un grand footballeur, mais excuse-moi, sur scène, il joue comme un pied, et c'est normal, c'est un footballeur.
La deuxième info média importante, c'est le départ de Paul, le champion des 12 coups de minuit de midi de TF1.
Vous êtes couché tard.
Je me suis un peu couché tard. Il repart avec une cagnotte de 691 000 euros après 150 participations.
La réponse aujourd'hui est... C'était Alain Poher. Aïe, 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 eh bien c'est Jean-Charles qui fait tomber Paul aujourd'hui, sans jamais avoir été élu. Je voudrais qu'on applaudisse quand même Paul qui a fait un parcours extraordinaire.
Un moment rare de télévision dans TPMP, c'était mercredi, mais j'avais pas eu le temps de vous passer le son, présenté par Benjamin Castaldi, qui a eu la bonne idée d'appeler Thierry, vous savez, de l'amour et dans le pré au téléphone, autant de vous dire qu'il y avait de la friture sur la ligne.
Moi, je voulais avoir votre version.
Il m'a dit que je l'ai aidé.
Mais bien sûr.
Non, écoute-moi.
Voilà, c'est tout. C'est pas plus grave que ça.
François Fillon était l'invité sur la RTS de Darius Rochebain, le PPDA local, à qui il a fait comprendre que Macron était un petit joueur.
Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue.
Ah oui, vous avez fait mieux là.
Macron, c'est un petit joueur à côté.
Et pour finir, Valérie, cette info de début de semaine dont la vidéo a buzzé sur les réseaux sociaux, y compris sur le vôtre, Christophe Beaugrand.
Oui.
La mort de la comédienne Diane Carroll, qui jouait le rôle de Dominique Devereaux et qui a osé affronter la terrible Alexis Carrington. Ça fait le tour du web et des vidéos du web.
Si ce champagne vous déplaît autant que vous le dites, mademoiselle Devereaux, laissez-le. Le caviar est excellent, il vous plaira.
Tiens, alors ça m'étonnerait. C'est de l'Ossetrova et je ne mange que du beluga de Petrosian.
Écoutez, mademoiselle Devereaux, quoi que vous soyez venue faire à Denver, je crois que vous auriez intérêt à faire très attention avec moi.
Voilà, la mort de la comédienne de dynastie.
Se bagarrer autour du caviar, ça c'était les années 80, c'était magnifique.
Oui, là c'est plus possible aujourd'hui.
Ah non, je vous confirme.
C'est plus possible. Les 12 coups de midi, vous regardez les émissions de la journée, ça vous est arrivé
de regarder. J'ai eu la chance de participer une fois aux 12 coups de soleil, c'était une émission spéciale de l'été, avec des champions qui participaient. Paul n'était pas là à l'époque, il n'avait pas encore participé. Mais c'est une émission, ça ne m'étonne pas que ça fonctionne aussi bien, parce qu'on est heureux de retrouver tous les jours des candidats qui deviennent des personnalités à part entière.
Absolument. Thierry Samitier, hier soir, c'était un moment, moi je l'ai vu en direct.
Gênant, on va dire.
C'était très gênant.
Il
a dit qu'il était venu contre l'avis de son avocat. Je pense qu'il aurait mieux fait d'écouter son avocat parce que c'était particulièrement.
Oui, puis je pense que c'est vraiment pas la place des émissions de divertissement de traiter genre d'affaires judiciaires qui, pour le coup, sont en cours.
Je pense que là, il s'est plus enfoncé qu'autre chose hier en plus. Donc,
Que personne n'en sort grandi de cette histoire.
La bataille des couples, tous les jours, 18h25 sur 18h50, j'ai pas corrigé.
C'est pas grave.
18h50, non mais Gilles, qui n'est jamais responsable de rien, dit que c'est le dossier de presse, on va vérifier.
C'est ma faute.
18h50 sur TFX.
Elle a vérifié, non.
C'est la saison 2, oui. Parce que ça a très bien marché.
Ça avait très bien marché l'an dernier, ça avait été diffusé en période estivale.
300 000 en moyenne téléspectateurs.
Oui, on est même un peu plus, là ça marche de mieux en mieux en fait, ça grimpe au fur et à mesure des semaines. On a fait des records, notamment en début début de semaine à 460 000. On est première chaîne TNT sur le public jeune. On est première chaîne TNT très régulièrement, pas tous les jours, mais sur le public féminin. Donc oui, les cibles jeunes et féminines qu'on vise aiment ce programme. Et c'est un programme où on s'amuse beaucoup. Donc c'est pas vraiment que de la télé-réalité, c'est aussi un jeu. On n'est vraiment pas 100% télé-réalité, mais il y a des épreuves. C'est une sorte de Koh-Lanta des couples, sauf que eux ne vivent pas dans des campements horribles, mais dans une villa de luxe, ce qui est quand même pas mal.
Ouais, il y a un peu quand même, il y a un peu des rivalités entre les couples, mais l'idée n'est pas de les séparer comme dans certaines émissions.
Au contraire.
L'idée, ça joue sur la complicité des couples pour remporter les épreuves.
Exactement. Il y a des épreuves où on teste entre guillemets différents thèmes qu'on appelle les piliers de l'amour. Donc ça peut être la solidarité dans le couple, la communication, le dialogue. Et effectivement, il y a tout un tas d'épreuves et on est vraiment dans un jeu et dans une émission très feel good.
On doit vous poser la question à chaque fois parce qu'en évoquant un petit peu toutes vos activités, à la fois cette chronique d'humeur dans la matinale de Pascal Latour-Dupin et puis la télé-réalité, c'est quand même le grand écart.
Exactement, je suis très souple.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ça? L'argent vous faites ça uniquement pour l'argent?
Si je faisais ça pour l'argent, j'aurais fait d'autres choix parce qu'on m'en avait proposé pour d'autres choses parfois. Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même de la bataille des couples, c'est de la télé-réalité.
Ah, c'est de la télé-réalité, c'est du pur divertissement, c'est vrai. Et moi, je suis vraiment. J'ai plusieurs facettes. Je pense qu'on n'est pas un et indivisible dans la personnalité qu'on peut tous avoir. Et que je suis à la fois passionné de journalisme, d'information, de politique, mais aussi de divertissement. Moi, j'aime m'amuser, divertir. Je m'éclate autant dans une chronique où je parle de François Fillon, comme je l'ai fait ce matin sur LCI, que dans Ninja Warrior, par exemple, que je présente, qui est vraiment un pur divertissement, un grand Barnum d'été, que dans l'émission La Bataille des Couples. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir toucher des publics différents. Parce que moi, c'est assez marrant, quand je me balade dans la rue, on vient me parler, vraiment, différentes générations ensemble viennent me parler pour des programmes différents. C'est-à-dire que j'ai le gamin de 14-15 ans qui va me parler de La Bataille des Couples et de Ninja Warrior. J'ai la mamie qui va me dire je vous écoute aux grosses têtes, je vous regarde au loto, parfois je vous regarde sur LCI le matin. J'ai la mère de famille qui va me dire je vous vois dans 50 minutes inside. Et j'ai la chance d'appartenir à un groupe qui me laisse intervenir et exister sur différents thèmes différents programmes très différents.
Et c'est pas donné à tout le monde de ne pas être mis dans une case, c'est-à-dire d'être enfermé dans présentateur de téléréalité ou de... Il y a cette polyvalence
Si on m'avait enfermé et que je n'avais pu faire que ça, que de la télé-réalité, j'aurais arrêté parce que ça m'aurait fermé trop de portes. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'équilibrer. Quand on m'a proposé La Bataille des Couples, j'ai dit ok, mais moi je veux vraiment avoir mon passage sur LCI, ma place sur LCI. J'ai eu mon émission cet été d'ailleurs,
un
talk show d'été qui a super bien marché parce que je voulais marcher sur mes deux pieds, équilibrer les choses et pas uniquement être vu comme le gars qui fait taper 1, taper 2, Secret Story ou La Bataille.
Mais vous rêvez quand même de prime.
Je ne rêve pas de prime, je rêve d'émissions qui me plaisent, donc pas forcément en prime.
Qu'est-ce qui vous plairait alors ?
Je ne suis pas obsédé par des beaux divertissements, oui, ça pourrait beaucoup m'amuser, mais je ne suis pas obsédé à l'idée du prime. Je suis très heureux, par exemple, d'LCI, et je suis en train de développer des projets sur LCI, un talk show peut-être plus régulier. J'en ai fait un cet été, ce qui avait en quelque sorte valeur de test et qui a très bien marché. Donc je ne suis pas dans l'idée de forcément être en prime sur TF1, ce n'est pas forcément ça qui épanouit le plus. Je peux m'éclater sur un beau projet, mais tous les matins sur LCI, je m'amuse énormément et je suis très heureux de retrouver l'antenne tous les jours avec l'équipe de Pascal de la Tour du Pin, avec Jean-Michel Apathy, toute l'équipe de chroniqueurs, Hélène Manarino, etc. Moi, ce que j'aime, c'est la régularité. Le problème quand on fait notre métier, c'est que parfois, on a une émission ou deux émissions par an qu'on tourne très rapidement. Si je n'avais que Ninja Warrior, qui est très marqué, mais on tourne en 8 jours. Je ferais quoi le reste de mon année? J'ai besoin d'être en contact avec les gens, avec le travail, avec le boulot, tous les jours.
Vous dormez quand?
Le temps, de temps en temps.
Vous avez regardé sur France 2 demain l'émission des champions
Je vais jeter un coup d'œil par curiosité. Je sais qu'aux États-Unis l'émission avait beaucoup fait parler, mais elle n'a pas très bien marché. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. En plus, j'apprécie beaucoup Olivier Mine. Je suis très curieux de voir Teddy Riner en présentateur. Donc je pense que ça peut avoir de la gueule.
On regardera les audiences avec Rémi lundi. Hein, parce que voilà. Moi,
c'est casse-gueule.
Je prévois le guédin. Mais alors, le
on,
guédin.
On verra.
La bataille des coupes, 19h50.
18h50.
18h, décidément. Là, c'est pas moi. J'étais tellement sur le 50 que je me suis gourée. Voilà. 18h50. 18, c'est vendredi, vous croyez que j'ai du potentiel. 18h50, la bataille des couples sur TFX. Gilles est en train de montrer qu'effectivement, il y a une annonce de TFX qui dit 18h25. Donc c'est
désolé.
18h50.
Ah, non, je sais ce qui s'est passé.
Parce que c'était l'été.
Non, c'est pas ça. C'est que le premier épisode était plus long. C'était un épisode de 1h20, 1h30, et il a été diffusé à 18h50, mais dès le lendemain, à 18h25, dès le lendemain, c'était 18h50.
Quand on est de mauvaise foi, on cherche tout.
Mea culpa, nous avions tous les deux raison. Aujourd'hui, c'est 18h50.
18h50 TFX, tous les matins, l'humeur de Beaugrand sur SCI chez Pascal Latour-Dupin, tous les samedis, 50 minutes inside, et puis on attend Ninja Warrior, et puis le loto.
On tourne au mois de mars, inscrivez-vous, allez-y, soyez fous, il faut être musclé quand même.
Merci, merci beaucoup Christophe Beaugrand. À très vite. On se retrouve dans un instant avec Rémi Pernelet pour vous donner les dernières infos du PAF.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, à 10h, à 11h moins le quart, on va retrouver Gérard Collard pour les livres qu'il ne faut pas manquer, les livres qu'il faut lire. Et Rémi Pernelet nous a rejoint pour le blog média du vendredi avec les dernières infos du PAF, pas du FAP, du PAF. Et Gilles et Gansman est également là. Alors, l'actualité principale, c'est cette émission qui va démarrer sur CNews lundi.
Oui, c'est ça. Hein, ça a été, on a eu la confirmation que l'émission allait démarrer lundi. On n'a pas le titre de cette émission, mais donc c'est une émission qui va être à 19h. Éric Zemmour sera l'un des participants. L'émission sera animée par Christine Kelly. Elle sera divisée en deux parties, l'émission. Il y aura une première partie, je pense, de 19h à 19h30, dans laquelle il y aura quatre éditorialistes qui débattront. Donc il y aura Éric Zemmour, il y aura aussi Éric Revel, qu'on connaît bien sur la radio, Éric de Rydmaten et Marc Menant. Et puis dans la deuxième partie, Christine Kelly, je cite le Gérald Brice-Viret, orchestrera un face-à-face dans lequel un invité porte la contradiction à Éric Zemmour sur le fait principal de l'actu du jour. Et il a précisé que tout le monde sera le bienvenu pour débattre face à Éric Zemmour. Gérald Brice-Viret, c'est le directeur du canal.
Moi j'ai appelé le directeur Serge Nedjar de CNews qui m'a dit qu'il ne souhaitait pas communiquer là-dessus. On en reparlera lundi ici même. On va parler de ces marques qui ont décidé, de ces annonceurs qui ont décidé de retirer leurs écrans de publicité sur Paris Première. Et il y a un appel à les retirer également sur CNews, mais ça, on y reviendra lundi.
Donc deux infos quand même dans ce que vient de nous dire Rémi. Hein, ça veut dire que Christine Kelly, comme c'est à 19h, qui donc ne touche pas à mon poste, et donc elle ne sera plus avec
Cyril Hanouna.
Enfin, il a dit hier qu'il espérait qu'elle serait, après l'émission, qu'elle viendrait leur en parler. C'est-à-dire qu'elle peut venir après 20h passer.
Et puis ensuite, c'est en frontal avec la nouvelle version sur BFM de Duhamel face à un invité qui va donc être le même principe de Zemmour face.
On va voir qui seront les gens qui iront lundi. C'est Mohamed Sifaoui qui sera là, qui a écrit un livre, un brûlot contre Éric Zemmour. Donc c'est le premier invité. On va voir comment ça va se décliner.
Et du coup, sur CNews, Laurence Ferrari, sa case, puisqu'elle avait la case de 19h à 20h, elle a commencé à 18h jusqu'à 20h, donc elle va faire de 17h à 19h. Puisqu'elle aurait refusé de...
Ah, elle va faire 17h-19h.
Ouais, 17h-19h. Elle aurait refusé d'animer cette case de 19h à 20h avec Éric Zemmour. Ouais. Et donc, de ce fait, elle a été avancée.
Elle va faire 17h-19h. Et donc, 19h. Celui qui présentait Éric Arnaud, qui présentait... Thomas Hugues, il est le soir. Bon, on va se renseigner. Voilà. En tout cas, elle fera 17-19 et 19-20, ce sera Christine Kelly avec Éric Zemmour face à un invité. Deuxième information, on en a parlé dans le zapping, Rémi, Paul, le candidat des 12 coups de midi qui a été battu après 153
victoires. Donc il est un peu c'est le deuxième plus grand gagnant derrière le Christian Quesada dont on a eu l'occasion de parler dans la rubrique Fait divers. Qui avait eu 193 participations. Alors il part avec presque 700 000 euros 691 522 euros exactement et Et alors son départ, bon, a été
très commenté,
oui.
Parce qu'il il a perdu sur une question qui était relativement accessible et facile pour lui.
Ouais, vous la connaissez.
Et, la réponse, oui, mais je l'ai lue.
Si, la question, c'était quel est le président de la République qui a été
président sans jamais avoir été élu.
Deux fois sans avoir jamais été. Voilà.
Parce qu'il était.
Parce qu'il a à la mort de Pompidou.
Il était président du Sénat et donc
deuxième personnage de l'État. Donc c'était relativement facile comme réponse.
Donc voilà. On sait que les conditions de tournage étaient très compliquées avec Paul, puisque en règle générale, ces émissions sont faites ce qu'on appelle en flux et en continu. Mais avec Paul, on arrêtait
les... Peut-être rappeler pour les auditeurs que Paul est autiste. Absolument. Aspergé, et que donc effectivement...
Tous les 15 minutes, il
personne ne savait d'ailleurs s'il allait pouvoir participer à l'émission. Jean-Luc Reichmann racontait qu'au départ, la production lui disait c'est peut-être pas une bonne idée de le prendre.
Et donc, ils avaient aménagé des horaires avec des plages de respiration. C'était des tournages très très compliqué, les tournages avec Paul, et donc peut-être ils ont voulu un peu arrêter pour que...
Alors ce serait lui qui aurait éventuellement volontairement... Alors c'est ça, est-ce que c'est une polémique? Après tout, il fait ce qu'il veut, mais cette réponse semblait tellement facile pour lui qui domine l'histoire, en plus étant un de ses thèmes favoris. La réponse semble pas très compliquée, parce que les autres propositions, c'était De Gaulle, Pompidou ou Giscard. On sait bien que les trois autres ont été élus, donc en fait, c'était quand même assez simple. Il a répondu De Gaulle.
Autre nouveauté qui arrive, L'Atelier, la nouvelle émission de Flavie Flamand sur M6, le retour de Flavie Flamand à la télévision qu'on va recevoir.
On la recevra le
1er novembre. 1er novembre.
Ah bon, le 1er novembre, c'est férié quand même.
Oui, mais nous on travaille.
Alors,
ben écoutez, Rémi... c'est une émission qui a fait inspirée d'un format britannique qui s'appelle The Repair Shop. Ça marche très très bien aux États-Unis, en Angleterre, pardon. Il y a 2 millions de téléspectateurs chaque après-midi, selon le Daily Mail. En fait, il s'agit de prendre des objets et de les réparer. Mais ces objets, ce sont des objets qui ont une histoire personnelle, en fait. Bon, ça peut être... en Angleterre, l'émission n'est pas incarnée. En France, elle est donc présentée par Flavie Flamand. On a des personnes, par exemple, Karine a voulu remettre en état des fauteuils ayant appartenu à ses grands-parents. Dorian est venue avec une poupée vieille de 110 ans donnée par son arrière-grand-mère. Christine avec le bouson de sa sœur décédée il y a une vingtaine d'années. Et donc, la restauration de ces objets, en fait, d'après le producteur et moi, je n'ai pas vu l'émission anglaise.
Je l'ai vu en Angleterre. Ouais,
génère beaucoup d'émotions. En fait.
Oui, parce qu'en fait, ils ont une dizaine ou une quinzaine d'artisans qui sont les véritables stars du programme et qui rendent l'objet qui n'était pas très joli ou très sexy. C'est un peu le relooking des objets,
À la fois, le programme va mettre en valeur, évidemment, des artisans, comme des forgerons, des maroquiniers,
des remises, entre guillemets, à niveau qui sont assez spectaculaires.
La question que je me pose, est-ce que trop de brocante tue la brocante? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment...
Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le même producteur que Affaire Conclue. Le producteur. Il produit aussi Affaire Conclue avec Sophie Davant sur France 2, donc ça marche. Est-ce que ça va marcher aussi? Après, je trouve que quand même M6 fait beaucoup de ce qu'on appelle les MeToo, les émissions qui ressemblent un peu à des thématiques, en tout cas déjà utilisées, qui fonctionnent ailleurs. Et là, la brocante, ça marche sur France Télé, sur France 2. Est-ce que ça va marcher? L'émission n'est pas la même, mais quand même, on est dans le même...
On est dans la même catégorie de famille.
Voilà.
Thierry Samitier, on l'évoquait tout à l'heure, de nos chers voisins accusés de propos et de gestes déplacés, enfin d'agressions sexuelles, on peut le dire comme ça. Il est allé hier soir s'expliquer dans TPMP. Gilles nous en a passé un extrait dans le zapping. Toute la séquence était extrêmement gênante pour lui. Rémi, peut-être nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé.
En fait, c'était lors d'une pièce qui a été jouée à Paris tout l'hiver, qui s'appelle Boeing Bing. C'est une comédie de boulevard célébrissime, bien sûr. Il jouait l'un des rôles principaux. Il y avait aussi Franck Dubœuf et plusieurs actrices. Et en fait, ça a duré assez longtemps. Les actrices, petit à petit, se sont plaintes que lorsqu'il y avait des scènes de baisers, ils voulaient les embrasser en mettant la langue, qu'ils se collaient derrière les actrices et sur les fesses, tout simplement.
Lui parle d'une sorte de complot contre lui, qu'on a voulu le... qu'on a voulu l'abattre. Mais
ouais, de le jeter
enfin,
de la
malgré
pièce.
Tout, la pièce, du coup, elle a été retirée. Le producteur, qui n'a au départ rien dit, mais quand même, il a quand même pris des mesures, puisqu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui accompagnait Thierry Samiti en permanence à un moment donné, pour qu'il ne soit jamais seul, ni dans les vestiaires, ni dans les. Donc, il y a quand même.
Ce qui est
quand même
surprenant. Début mars, les deux comédiennes se sont fait prescrire des arrêts maladie. Donc, la pièce s'est arrêtée à ce moment-là.
Ah oui, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils auraient pu trouver un autre comédien et le remplacer dès qu'il y a eu les premières plaintes et point barre. C'est très bizarre, en fait, tout ce buzz
Pareil, quand il y a des personnes, des femmes qui témoignent, qui vont jusqu'à faire des mains courantes pour porter plainte, dire que c'est un complot organisé par Franck Leboeuf, puisque c'est ce que prétend Thierry Samitier, moi, ça me paraît court comme défense, un peu court.
Ouais, enfin, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu d'autres signes. On va voir si d'autres.
Bah, il semble
pas un coureur dans les séries ou dans les.
Ah bah si, sur puisqu'en fait il est surtout connu pour
dans les médias de
Nos Chers Voisins. Et il semblerait qu'il y ait des comédiennes de Nos Chers Voisins qui aussi aient fait des remarques sur le fait qu'il soit. Alors après, il est très lourd, un peu lourd, un peu lourd. Ça ne veut pas forcément dire. Agression sexuelle, mais où est la frontière? C'est
moi ce que j'ai appris hier dans l'émission de Cyril Hanouna, qui lui a posé la question savoir comment TF1 réagit s'il avait eu des contacts avec eux. Il a dit ben non, puisque la série est tournée depuis 3 ans.
Puis il y a beaucoup de rediffusions.
Après, s'il est condamné, ils vont être face à un petit problème.
Ça va être compliqué de le couper au montage. Absolument. On verra. Merci à vous deux. On se retrouve, nous, dans quelques instants avec Gérard Collard. Pour parler livres, parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Le vendredi, les livres avec Gérard Collard, des bons livres pour ce week-end avec vous. Bonjour Gérard, vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est La Griffe Noire.
Je vous remercie.
Pourquoi ?
Oui, c'est pas courant, mais c'était la semaine dernière ou avant, il y a 15 jours, vous m'aviez parlé d'un livre de Bizot qui s'appelle...
C'est il y a longtemps, c'était avant les vacances même.
De
Thierry Bizot.
Un petit coup de jaune aux éditions du Seuil. Et alors, j'ai complètement adoré ce livre. Si vous cherchez un bon livre de détente, intelligent, c'est l'histoire d'un type, il a un accident de voiture, il est amnésique.
Il se réveille 17 ans, combien
17
oui, c'est
ans,
ça, 17
il a, voilà,
ans
il croit
après.
Être en 2001,
il croit être en 2001.
Et là,
il
va découvrir que Chirac, il n'est plus au pouvoir, qu'il y a eu Hollande, Sarkozy. Il ne sait pas ce que c'est que le streaming, il ne sait pas ce que c'est que l'iPhone. Il est complètement amoureux de sa femme. Le problème, ce qu'il découvre, c'est que sa femme, elle n'est plus sa femme. Et qu'il est il est marié avec une blondasse... pas possible que son petit-fils, que son fils qu'il avait quitté au judo, maintenant il a 23 ans et que c'est génial. C'est à la fois une histoire, on revisite l'histoire contemporaine et puis...
L'histoire contemporaine, c'est un vaste mot, c'est-à-dire c'est tous les bouleversements qu'il y a pu y avoir, technologiques...
À notre époque, maintenant, vu l'état de
notre société,
du niveau, c'est vraiment...
Et c'est effectivement un regard sur tous les changements de notre époque qui est...
Et puis c'est plein d'émotions aussi, parce qu'il y a un côté humour, mais il y a un côté... c'est stressant, parce que vous imaginez, et puis alors en plus, il n'a pas une vie si évidente que parce qu'au début, on croit que, mais il y a un suspense avec un secret.
Il y a un suspense,
il a perdu son frère, et qu'est-ce qui s'est passé avec son frère? Vous le découvrirez à la fin du bouquin. C'est hyper bien fait.
Un roman dans lequel vous rentrez, vous ne le lâchez pas, parce que d'abord, vous attachez au personnage, à ce personnage. C'est un livre de détente, c'est un livre intelligent.
C'est magique, vous êtes dedans. Et puis bon, alors, c'est ce que je dis chaque fois, c'est pas Marcel Proust, on n'a pas besoin d'avoir Marcel Proust tout le temps.
Non, mais
il a une plume, une patte en plus. Franchement, c'est bien. Puis on peut s'en faire. Moi, je trouve qu'on devrait faire un film de ce. Ouais. C'est vraiment très, très, très bien.
Un petit coup de jeune, c'est aux éditions du Seuil et l'auteur, c'est Thierry Bizot. Voilà. Moi, j'avais un petit coup de gueule sur un livre qui s'appelle Le Roi Fol de Laurent Decaux. Alors, Laurent Decaux, c'est le fils. Du grand historien Decaux. Seulement, je ne suis pas sûre que le talent soit héréditaire. C'est un roman historique. Et le problème, moi, ce qui m'a gênée, c'est que déjà, je trouve qu'il n'y a pas de dramaturgie. C'est une écriture très linéaire. Il n'y a pas de personnage attachant. La période, elle n'est pas très connue. C'est la fin du XVe siècle qui a été assez peu racontée. Et il y a pas de détails du tout sur la vie quotidienne, ce qui fait le sel un petit peu des romans historiques, donc je n'ai pas trouvé ça bien. Puis surtout, il y a des erreurs historiques assumées. Donc quand vous êtes historien, vous pouvez vous arranger avec le truc, mais il le dit en plus à la fin du livre en disant « Bon, bah, j'ai changé le prénom de celui-là parce qu'il y avait trop de gens à l'époque, donc je l'ai appelé, je ne sais plus comment, je me souviens, Laurent. » Et puis surtout, il fait arriver un personnage très important 6 ans avant, et puis il y en a un autre qui arrive 12 ans après. Oui. Donc c'est, moi, ça m'a gêné. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas Mika Waltari, c'est pas Tim Willock. Voilà, je trouve que d'utiliser le nom de Co pour et c'est chez IXO, donc c'est plutôt une grande maison d'édition, pas terrible.
Il ferait mieux de s'afficher, enfin, ailleurs.
Oui, oui, enfin, franchement, je trouve que s'arranger avec la vérité historique quand on se prétend historien, c'est un peu compliqué.
Oui, ça c'est clair.
Alors,
j'ai une petite merveille, les enfants. Là, non, déjà, j'ai un petit coup de tristesse, enfin, c'est, vous savez, Jean-Philippe
Blondel, qu'on aime énormément.
Oui, alors, moi, je suis un peu désespéré, parce que quand on voit les daubes qui sont en tête, là, partout, voilà, et puis vous avez ce petit roman, c'est un très, très beau roman, où il parle des instituteur, parce qu'il est instit, il est prof, et il parle de la mutation.
Ça s'appelle La Grande Escapade, c'est un roman qui est paru à la rentrée. Jean-Philippe Blondel, si vous n'avez rien lu de lui, allez-y, tout est en poche. Vous passerez un moment formidable. C'est moi, j'ai une passion pour cet écrivain. Je ne le connais pas, mais je trouve qu'il a un univers. Il décrit les choses avec tellement de justesse.
Il décrit les gens simples du quotidien et on se retrouve tous dedans, mais avec beaucoup de finesse. Et là, il nous décrit en 75 le coup qui a été mai 68, parce que c'est un peu comme un tsunami. C'est-à-dire qu'il y a un retardement entre le moment où les événements se produisent et puis les conséquences. Et là, vous êtes dans une école avec tous les instits qui vivent ensemble, comme ça se faisait à l'époque, ça doit se faire encore là. Et puis, il ne voit pas le coup venir. Il y a un jeune prof qui arrive là-dedans. Alors, il a des nouvelles méthodes. On tape plus sur les enfants, on tire plus sur les cheveux des enfants. Il faut leur faire comprendre tout. Et là, on voit ils sont complètement désemparés. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont ouverts et qui se disent « oui, il faut changer », d'autres qui ne comprennent rien. Ouais. C'est tout en humanité, en finesse. Et ça rappelle... je n'ai pas vécu ça au niveau de l'incit, mais vous comprenez mieux le désarroi de ces gens.
On retrouve pour les gens qui ont connu ou qui ont eu des parents dans les années 75, vous allez retrouver des choses d'une justesse sur la psychologie, sur les transformations du rapport dans le couple.
Et puis de l'état de l'école de l'époque. Mais je suppose que on peut transposer ça à notre époque, parce que les changements sont continuels à notre époque, et quand on voit ce qui se passe, des choses dramatiques, on peut comprendre. Allez-y,
m'a fait penser au début un peu au petit Nicolas, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce que c'est un groupe d'enfants au départ.
Il y a
les enfants et il y a ce garçon qui doit lui ressembler un petit peu, qui est gauche, un peu maladroit, qui est un petit peu à l'écart.
Qui est hors de la bande.
Voilà. Et donc c'est la vie de ce groupe scolaire. Moi, j'ai ce livre.
Et puis alors les
formidable.
Enfants retraduisent les dysfonctionnements dans les familles, c'est-à-dire qu'on reproduit la même chose. C'est une pure petite merveille. Une fois que vous êtes dedans, c'est pareil que le petit coup de jaune là. C'est vraiment ne lâchez pas. C'est vraiment. Je trouve ça un peu scandaleux.
Oui, c'est dommage parce que c'est des gens qui ne sont pas dans les circuits forcément des critiques littéraires.
Et il n'est pas dans l'air du temps à parler. On a besoin de parler des migrants, des choses comme ça. Lui, non, c'est les gens simples comme ça.
Ça s'appelle
qui
La Grande Escapade. C'est chez Buchet-Chastel, Jean-Philippe Blondel et puis... commencer peut-être par les poches, si vous voulez, mais celui-ci, c'est vraiment, vraiment un très beau roman.
Moi, j'avais adoré celui qui se passait dans le train, qui était 6h, le train 6h43 ou
47,
6h21 en pocket.
Un homme, une femme qui se
retrouve. C'est une pure merveille, la trouvaille. Allez-y, franchement,
La Grande Escapade, il mérite vraiment que vous le lisiez.
Beaucoup plus de succès qu'il en a, moi, je trouve.
Beaucoup plus
de succès qu'il voilà.
Allez-y, La Grande Escapade, Jean-Philippe Blondel, et si vous n'êtes pas content, vous pourrez vous plaindre, mais je pense que vous aimerez ce livre. C'est de la tendresse, c'est de l'humour, c'est un regard très très juste sur la société et sur les humains.
C'est une de mes idoles. Hein. Oui. C'est vient de paraître une biographie, pour moi c'est un régal.
De
Je vous laisse
le dire. Louise de Villemorin, Une vie de bohème, alors, de Geneviève Haroche-Bouzinac. Mais il n'y en a pas eu 50 déjà
comme celle-là, c'est une vraie biographie, bien fouillée, bien écrite. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus Louise de Villemorin. Qui est Louise de Villemorin? Pour moi, alors Louise de Villemorin, c'est, si vous allez voir les émissions qui sont sur YouTube, c'est l'élégance, le charme. En plus, elle boitait, mais alors ce petit boitement-là, ça accentue son charme. C'est une femme qui tenait salon. Alors, oui. Elle a eu comme, attendez,
elle
a eu comme
maman. Elle est née en 1902. Hein.
Ouais, elle c'est bon, elle est descendante de la grande famille des Villemorin, hein, qui étaient des biologistes, on appelle ça
des
herboristes. Enfin, c'est pas ouais. ça, mais bon, ils étaient Villemorin, c'était les graines, tout ça. Donc grande famille, beau château, la grande bourgeoisie des années 50. Et elle a eu des amants, enfin des amours. C'est pas des amants, des amours comme Saint-Exupéry, ce qui est quand même pas mal. Et Malraux. Elle tenait salon. Alors, sa vie, c'est, quand elle vous raconte sa vie, c'est toute l'histoire intellectuelle des années 50. Vous avez, elle était merveilleusement belle. Elle avait, mais derrière ça, derrière ce côté pétillant, léger et tout, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de, comme on dit maintenant, de failles, il y a beaucoup. C'est d'un charme incroyable. Alors, je suis un peu plus, on va me sauter dessus, au niveau de ses romans, de ce qu'elle a écrit. Moi, je trouve que il y a des gens qui existent plus par leur vie que par leurs écrits. Et ouais. je trouve que le plus beau roman qu'elle ait jamais écrit, c'est sa vie. Ouais. Et vous lisez ça, moi, franchement, j'ai des souvenirs de, voilà, j'ai re-regardé il y a pas longtemps Un grand échiquier de Jacques Chancel où elle était la vedette, enfin l'invité principale. C'est bon, je veux dire, avec ce qu'on a maintenant et ce qu'on voit là, c'est vraiment incroyable, quoi. Je suis un inconditionnel, allez-y.
Louise de Villemorin, Une vie de bohème, c'est chez Flammarion. Et l'auteur s'appelle Geneviève Haroche-Bouzinac. Elle est professeure d'histoire littéraire à l'Université d'Orléans. Ouais, c'est là, pour le coup, c'est une vraie historienne.
Je ne serais pas à la hauteur pour raconter cette biographie parce que j'ai eu tellement aimé.
Vous croisez effectivement Cocteau.
Oui, son salon, c'est... c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Alors, une des surprises, là.
Oui, mais j'en ai parlé la semaine dernière.
Oui,
Gérard.
Mais là, franchement.
Je ne l'ai pas bien fait, c'est ça. Vous
non, c'est
parler.
Ça,
encore.
Mais
le rêve
voilà,
d'un fou, Nadine Monfils, vous l'aviez pas lu.
Je vous fais
lu.
Confiance, hein, puisque voilà, je l'ai lu. Et Nadine Monfils, elle est connue pour...
Oui, c'est des romans policiers un peu burlesques.
À côté Frédéric Dard, Oudiard, voilà. Revue à la Belge. Et là, elle a fait quelque chose qui est très, très, très compliqué, très dur à réussir, c'est qu'elle a changé complètement de style. Elle va parler d'un monsieur qui s'appelait Ferdinand Cheval, et Ferdinand Cheval, il a fait le...
Bah, c'est le facteur cheval avec alors, ce projet
moi, je me suis aperçu que
vie,
la jeune génération,
incroyable.
Ils connaissent pas trop. Hein. Ouais. C'est un monsieur qui a construit quelque chose de complètement surréaliste dans la Drôme. Il était facteur, il a été boulanger. Un jour, pendant sa course à vélo, il voit une pierre et cette pierre, il lui trouve quelque chose de joli. Et il continue à amasser les pierres, il va amasser les pierres. Alors, il a une vie tragique, hein, il perd son petit garçon, Victor, et après, il va perdre sa fille à 15 ans, Alice. Et pour ne pas tomber dans la folie, et pour avoir un souvenir de deux, pour s'occuper l'esprit, il va construire ce château absolument incroyable, ouais. un palais absolument incroyable. Et à travers c'est plein de tendresse, c'est plein de finesse.
Et puis elle s'est inspirée de sa vie, mais c'est un roman. Donc à la fois, il y a des choses qu'il a écrites lui, et puis elle raconte
elle
son histoire autour.
Elle a un sublime personnel ouais. qu'il rajoute là-dedans, qui est Marthe. Ouais. Et vous allez voir comment Marthe va découvrir le château de cet homme. Moi, ça a été une grande surprise. Et en creux, elle se découvre Nadine Monfils, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est une biographie en creux de Nadine Monfils. Derrière le côté, vous savez, c'est comme les clowns, on voit que le côté grimé qui fait rire, mais derrière c'est quelqu'un qui est peut-être plus seul qu'on ne le pense, qui est plus fragile, qui a une grande vie intérieure. Et puis ce facteur cheval nous fait découvrir que c'était pas un neuneu, c'est-à-dire qu'il aimait la peinture, ouais. il aimait Cézanne, il lisait. C'est vraiment une petite merveille que j'ai adorée.
Et puis moi, je voulais vous signaler, je ne l'ai pas encore lu, je vais lire ce week-end le livre de Rhys, qui est un des dessinateurs ouais. de Charlie Hebdo, un des survivants. Il a publié 1 minute 49 secondes aux éditions Actes Sud avec les échappés. Et dans ce livre, 1 minute 49 secondes, c'est le temps qu'a duré l'assaut des deux frères Kouachi. Alors ça n'a rien à voir avec le lambeau.
Les lambeaux, ouais.
Lui, il a de la rage, il a de la colère. Il essaye de raconter ce qui s'est passé pendant cette minute. Il rend évidemment hommage à ses camarades dessinateurs. C'est un livre important. Enfin, je vous en dirai plus la semaine prochaine, mais vous me disiez qu'il ne se vendait pas trop. Et qu'il était victime justement.
Moi, je suis pas représentatif en tant que libraire, mais chez nous, c'est plus
du lambeau. Et ouais. Le lambeau, qui est un livre magnifique, si ouais. vous ne l'avez pas lu, mais qui n'a rien à voir.
C'est une autre vision
des choses. 1 minute 49 secondes, c'est aux éditions Actes Sud. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis n'oubliez pas, hein, Jean-Philippe Blondel,
oui.
allez-y, vous allez passer un bon moment. Le livre de Thierry Bizot également.
Et
puis,
Nadine Monfils,
Le rêve d'un fou sur le facteur cheval, c'est aux éditions Fleuve Édition. Merci Gérard, très bonne semaine à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.